Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous, c'est Vacarme en réunion, je suis avec Gérard, salut Gérard.
Salut.
On vous retrouve comme toutes les semaines en cet état d'urgence qui s'incruste, qui commence à s'immiscer un peu partout dans les pans de notre vie. On peut lire ce matin dans les journaux que Valls a déclaré qu'il aurait envie de perpétrer l'état d'urgence tant qu'on n'en aura pas fini avec Daesh. Du coup, je crois qu'on sait tous un peu ce que ça veut dire. De toute façon, on peut lire de plus en plus de critiques qui partent un peu de partout, de tous les pans de la société, si elle existe, contre l'état qui nous est fait. Du coup, on imagine que dans les mois qui viennent, de plus en plus de voix vont s'élever contre ça. En attendant, c'est vrai qu'on reste un peu abattu par toutes ces déclarations et par ce qu'on peut lire dans la presse en termes de violences policières, d'injustice, si on peut dire. C'est-à-dire il y a comme une prise de possession de la justice par l'État, par l'administratif qui se fait. Du coup, on peut continuer à se sentir un petit peu écrasé par tout ça. Nous, on a choisi aujourd'hui de parler de la ZAD, parce que en cette période un peu sombre, ça nous semble être encore la meilleure voie pour nous rendre de la force. Et puis entre l'alternative morbide que se joue l'État et Daesh, ou les djihadistes, etc., comme cette espèce de fausse guerre de civilisation là qui sont en train de nous jouer, eh ben nous on choisit de prendre une troisième partie, une partie qui est peu souvent citée dans cette espèce de guerre en cours. Et c'est celle qui est incarnée entre autres par la ZAD, mais aussi par tous les gens qui ont choisi de prendre des chemins de traverse aujourd'hui. Et du coup, vu que l'actualité se fait forte à la ZAD, on a choisi aujourd'hui de vous parler encore une nouvelle fois de la ZAD.
Alors, parlons d'autre chose. Parlons de ce qui s'est développé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ces 7 dernières années, en place et lieu d'un projet d'aménagement capitaliste. Quand on ne s'est jamais rendu sur place, c'est difficile de s'imaginer l'ampleur de la zone. La ZAD s'étend sur environ 10 km de long et 2 km de large, ce qui fait environ 2000 hectares de bocages, de routes et de fermes, de maisons d'habitation, de yourtes et de cabanes, de bois et de friches, de hangars et de mares, etc., etc. La zone est habitée d'une soixantaine de lieux de vie très divers, et habitée par des personnes, des familles, des collectifs, très différents les uns des autres. Tout a commencé par un projet d'aéroport, et par quelques irréductibles habitants qui avaient décidé qu'on ne la leur ferait pas. Conscients qu'un territoire vidé de sa population est un territoire facile à conquérir, ils ont lancé en 2008 un appel à venir occuper la zone.
On s'est aperçu que tout seul, on n'arriverait pas à gagner contre Vinci et l'État. Donc on a fait un appel en demandant à ce que tout le monde vienne de France et même d'ailleurs vienne nous aider. Venez habiter, venez occuper les lieux et tout, donc c'est nous qu'on a fait cet appel, et avec les culs de plomb. Et enfin, c'était même pas les culs de plomb, c'était des habitants qui résistaient, une autre assoce qu'on avait fait avec des habitants du coin. Et donc on a fait cet appel, et cet appel n'a pas trop bien marché la première fois, et le deuxième coup c'était au Grand Climat, il y avait beaucoup de monde et tout, et là, à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui sont restées sur place et tout, donc... ma première réaction, ça a été quand même un petit peu la méfiance, parce que c'était vraiment c'était pas du tout le même vie que nous, tout ça, donc la collectivité, les machins, tout ça, j'avais pas trop l'habitude à ça. Et puis donc, petit à petit, on a commencé à aller sur les lieux, à faire connaissance, et les personnes sont venues ici, tout ça, on s'est aperçu qu'on avait des points communs, et petit à petit, ça s'est fait comme ça, et après... jusqu'aux expulsions, c'était comme ça, on essayait de faire des liens avec les personnes de la ZAD et puis les habitants, enfin, tout ça, on a petit à petit on s'y est mis, et après on a commencé à connaître de plus en plus de monde, et on s'est aperçu que c'était pas les méchants qu'on pourrait croire quand tu connais pas, qui étaient tout à fait ordinaires, très sympas, et puis qui avaient sûrement quelque chose à faire avec ces personnes-là. Puis c'est ce qu'on a fait, puis le résultat est là, c'est qu'on est ensemble.
Bonjour, et eh ben ici on est sur le toit de la future auberge du Limimbou. Donc le village du Limimbou, c'est un village de la ZAD qui est sur le tracé du futur projet d'aéroport. Et dans ce village, il y a des irréductibles habitants qui résistent, dont font partie Claude et Christiane. Ils font partie de ces habitants qui, dès 2008, avaient appelé à occupation et avaient appelé des gens d'ailleurs à venir vivre sur la zone pour empêcher les travaux et pour empêcher le projet d'avancer. Depuis ce moment, depuis qu'ils ont appelé à occupation, ça fait plusieurs années qu'on s'organise ensemble, notamment autour des questions d'autonomie alimentaire, et qu'on partage ensemble un jardin, une activité de petit élevage vivrier. Depuis aussi des années, ils sont l'objet de procédures d'expulsion. Du coup, il y a une série de procès à répétition à leur encontre depuis 3 ans. Et cette espèce de longue série noire judiciaire a abouti à leur expulsabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu un rendu le 14 mai qui les déclare expulsables de la maison qu'ils habitent depuis plus de 15 ans. Expulsables sous 18 mois. En réponse à cette décision de justice, et aussi pour prolonger les niveaux de l'autonomie alimentaire et le partage matériel qu'on met en œuvre avec Claude et Christiane, on a décidé de lancer ce chantier qui consiste à rénover l'ancienne écurie qui nous servait jusqu'à présent de labo et de lieu de stockage pour en faire une conserverie, une salle de banquet et une très grande cuisine. Ce chantier, c'est une réponse à tous ceux qui veulent expulser les habitants de la zone. Et c'est une démonstration en acte qu'on se projette ici sur le long terme. C'est aussi une manière pour nous d'aider des habitants qui, depuis des années, du fait du projet, n'ont plus de perspective ici. Et par conséquent, ne parviennent pas à investir dans des chantiers ou à améliorer l'ordinaire. Donc pour nous, ce chantier, c'est une manière d'inscrire durablement la résistance et d'affirmer avec Claude et Christiane qu'on restera ici jusqu'au bout. On a pu couvrir 4 000 € de dépenses du chantier, que ce soit les ardoises, l'achat de ciment, etc. Ensuite, il y a des gens du coin qui ont ramené des choses qu'ils avaient en vrac chez eux, en rab. C'est venu compléter, mais quand même, le gros des frais de chantier, c'est de l'achat collectif neuf ou d'occasion. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire quelque chose de très beau, que ça se voit que c'est vraiment rénové, pas juste rajouter 3 tôles vite fait, de vraiment marquer quelque chose, que ça se voit quand tu passes devant la maison, qu'elle n'a plus rien à voir avec avant, et que du coup ça renforce le geste d'affirmation politique de la construction.
Et puis il y a le bois aussi.
Alors le bois, ah oui j'ai oublié le bois. Le bois, une partie majeure du bois d'œuvre, il a été coupé cette année sur la ZAD dans le cadre de la campagne Abracadabois. Et du coup c'était la première année qu'on s'organisait collectivement pour faire du bois d'œuvre. Et puis il y a une scierie d'un comité de soutien du Limousin qui est venu cet été, avec laquelle on a débité un certain nombre de sections qui viennent ravitailler différents chantiers de la zone, parce qu'il y a de multiples chantiers sur la zone, pas que celui-là, il y a différents chantiers de la zone, dont celui-là.
Sur les dynamiques agricoles, mais aussi tout un tas de dynamiques ici, il y a un truc de partage. Du coup, sur les trucs agricoles, on partage les terres. Tous les ans, on se répartit les terres entre les gens qui ont des projets de culture. Et l'autre outil collectif, c'est la Curcuma, du coup, qui s'occupe de réparer les machines qui sont disponibles après formation, évidemment, qui sont disponibles pour tout un chacun qui a envie de cultiver de manière mécanisée ici. Et tout ça marche avec une caisse collective aussi de pouvoir avoir de l'argent pour les différents projets, ce qui est assez peu comptabilisé. On ne regarde pas si un projet est rentable, est-ce qu'il ramène autant de pognon qu'il en a pris ou quoi. Il n'y a pas de comptabilisation de ça. Du coup, on n'a pas trop d'enjeux à la rentabilité, quoi. Du coup, ça offre la possibilité à plein de gens de venir cultiver et tout. Il n'y a pas besoin de formation agricole. La formation, on l'a fait sur le tas, on l'a fait entre nous. On est beaucoup dans des trucs d'auto-formation. Et ben, il n'y a pas besoin de se taper 2 ans de cuir sur une chaise à apprendre de la comptabilisation et je ne sais quel autre truc pour pouvoir accéder à des terres, des machines, pouvoir cultiver, essayer, expérimenter, se planter ou pas, se lancer dans plein de trucs un peu fous.
La curcuma, ça veut dire ?
La curcuma, c'est coopérative d'usure, de réparation, de casse et d'utilisation de matériel agricole. C'est beaucoup d'usure et de casse et de réparation. Mais il y a aussi d'utilisation.
Alors à la fin des expulsions en hiver 2012, il y a eu un appel de Saint-Azad à venir occuper les terres pour résister sur place, sur le terrain, durablement. Et du coup, on est un petit groupe de personnes à avoir eu envie de s'installer ici. On n'habitait pas très loin. Et avec l'idée de cultiver du blé ici pour alimenter les boulangeries de la ZAD et aussi pour alimenter le pain pour une cantine à Rennes, à la maison de la grève. Et donc voilà, on a cultivé une dizaine d'hectares de blé depuis 3 ans. Et donc depuis 1 an maintenant, on transforme aussi le blé dans une meunerie qu'on a installée ici. Et on a fait un appel à dons pour pouvoir s'approprier les machines. Et voilà, du coup ça a marché, on a un moulin et une buterie. Et voilà, tout peut se faire ici, quoi. On a de la semence jusqu'au pain, tout est fabriqué sur la ZAD. Et ça, c'était aussi un de nos objectifs, quoi, de faire qu'il y ait une autonomie sur au moins la question de la boulangerie, du pain et de la farine. Après, il y a d'autres aliments qui sont produits ici. Et ça fait partie des projets politiques de la ZAD, quoi. C'est d'arriver à être autonome sur certains aliments, sur certaines productions. Et donc ce pain, il est distribué à prix libre ici.
La farine qui arrive dans le sac ici et le son qui est crié à côté. Et le son qui est donné pour les cochons de la ZAD.
Est disponible ici aux Fosses Noires à côté dans la pièce de vie. Il est disponible à prix libre pour tous les gens qui passent, pour tous les habitants de la ZAD, pour tous les gens qui habitent à côté ou autour et qui veulent venir chercher du pain. Du coup, tout le monde peut venir ici pour chercher du pain. Et du coup, que ce soit ici aux Fosses Noires ou au non-marché, le pain il est disponible à prix libre. Ce qui fait que les gens qui ont les moyens ou que les gens qui n'ont pas les moyens peuvent prendre le pain et c'est pas. Voilà. Nous on fait du pain, c'est pas une question d'argent pour y avoir droit. Quoi.
Bonjour, je suis Ariel, j'ai fait partie du collectif de solidarité avec les expulsés de la rue de Stock de Nantes. On est un collectif avec plusieurs organisations et des citoyens solidaires comme moi. Je sais, face à les responsabilités des autorités, qui laissent ces gens sans aucune aide ni protection après leur exode et leur long voyage de chez eux jusqu'à ici, à traversant le désert, la Méditerranée, où il y a beaucoup qui sont restés et sont arrivés ici, et l'État se déresponsabilise totalement de ces gens. Et nous, comme citoyens solidaires et le collectif, on essaye de les aider. Et c'est pour ça qu'on aide à peu près 170 personnes qui sont dans ces 4 squats depuis 1 an. Et la ZAD contribue solidairement avec cette lutte pour faire un peu plus digne la vie de ces gens qui arrivent chez nous pour demander l'asile politique, n'importe. Il faut pas faire la différence.
Bah, j'avais envie de parler un peu de pourquoi on est ici ou pourquoi certains d'entre nous sont ici. Et du coup, y a quelques raisons qui vont peut-être aussi au-delà d'un projet d'aéroport. C'est que je pense qu'on est un certain nombre à lutter contre un projet d'aéroport pour d'abord lutter contre des projets d'aménagement du territoire qui sont imposés par l'État et par des sociétés qui veulent se faire de l'argent et où du coup on cherche à aménager, à décider de nos vies dans une logique de profit et qui est un peu tout le contraire d'une logique de chacun décide ensemble avec les différentes personnes concernées de qu'est-ce qu'on fait de nos vies, qu'est-ce qu'on fait de notre avenir. Du coup, ça c'est une première raison d'être là. Après, il y a aussi l'envie de rejoindre des gens en lutte et de lutter avec des personnes variées en prenant en compte notre diversité, mais en essayant d'aller ensemble dans une direction. Il y a l'envie que chacun et chacune puisse avoir accès à ce dont on a besoin pour vivre, que ce soit un espace pour simplement habiter, avoir une habitation, construire une cabane, ce qui est un truc que dans ce monde, il n'y a pas tout le monde qui a accès et que du coup, en ayant une zone, une grande zone où on est un peu, on peut un peu y faire des choses qui ne sont pas ordinaires, c'est aussi permettre d'avoir des gens qui ont besoin d'un espace pour vivre, de pouvoir construire une cabane, à des gens qui ont envie de faire de l'agriculture vivrière, de juste cultiver pour partager avec d'autres gens en lutte, pour donner des cultures à des cantines populaires. Un truc d'autosuffisance alimentaire et de solidarité, d'avoir de l'espace pour ça. C'est un moyen de divers gens en lutte de se rencontrer. C'est un lieu qui est un peu grand, un peu connu, où il y a un peu de la place et qui s'inscrit un peu sur le long terme. Et où du coup, c'est aussi un carrefour, un croisement de différentes personnes qui luttent contre ce système, qui veut décider de nos vies pour l'argent, pour faire de l'argent à des gens qui en ont déjà.
Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a un certain nombre de défis, ce sont des défis immenses. On se réapproprie à la fois des nouvelles façons de faire de l'agriculture, des nouvelles façons d'habiter, des nouvelles façons de construire nos logements, des nouvelles façons de décider ensemble, de décider en commun comment nous voulons habiter ce territoire en tenant compte de son histoire, en tenant compte de son environnement. Et si on va à Paris aujourd'hui, ce n'est pas pour demander quelque chose, c'est pas pour revendiquer quelque chose. En réalité, ce qu'on fait, c'est une main tendue. C'est proposer une perspective, la seule perspective aujourd'hui, la seule perspective qui puisse bouleverser ce monde en crise, ce monde en crise écologique, économique. Et c'est une perspective qu'on offre à tous. Tous ceux qui en ont assez de leur routine, tous ceux qui ne peuvent plus habiter le salariat, tous ceux qui sont oppressés par la justice, par la police, par l'État, tous ceux qui cherchent une porte de sortie. Cette porte de sortie, elle est là, elle est concrète. C'est ici, on l'a construit dans le quotidien et on la défendra jusqu'au bout.
Ok, vous êtes à nouveau sur les ondes de Vacarme en Réunion, sur le 92.2 Radio Dijon Campus. On voulait donc peut-être vous contextualiser un peu ce documentaire sonore là que vous avez entendu. En fait, c'est une vidéo qu'on trouve sur internet qui s'appelle Construire la ZAD, qui a été produite donc par des habitantes de la ZAD, des personnes qui gravitent autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est trouvable sur internet et c'est une réponse à la COP21 et à son monde. Voilà, ça a été produit à ce moment-là. On voulait vous passer ce son de la ZAD, notamment pour introduire ce qu'on va dérouler dans la suite, là, ce bouquin qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, qui vient de sortir, en fait, qui s'appelle Défendre la ZAD, qui est un bouquin qui a été produit, écrit par le collectif Mauvaise Troupe, donc on en a rencontré une partie, peut-être tu nous en parleras tout à l'heure. Mais voilà, pour recontextualiser un peu, là, on est dans une période où, effectivement, depuis un mois, il se passe à nouveau des choses, il y a une espèce d'actualité brûlante sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, notamment parce qu'il y a eu une reprise des hostilités de la part de Vinci et de la part du gouvernement, au travers d'un procès qui a été intenté aux habitants donc dits historiques sur la zone de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce procès demande donc l'expulsion des habitants et des habitantes, le paiement d'indemnités journalières, etc. Bon, on vous avait déjà dit tout ça dans une émission précédente de Vacarme en Réunion, vous pourrez écouter toutes ces informations-là. Donc ça a été jugé, enfin en tout cas, oui, il y a eu un jugement le 13 janvier. Il y a eu une manifestation le 9 janvier à Nantes, avant ce procès, pour mettre la pression vis-à-vis de ce procès-là, et qui a réuni 40 000 personnes à peu près. Non, c'était pas 40 000, pardon, c'était 20 000, ouais, 25 000, je confonds. Voilà, et on en avait parlé aussi. Là, on arrive, donc demain, c'est le rendu de ce procès-là, à Nantes, le 25 janvier, donc on a le rendu de tout ça. Et est-ce que l'État, est-ce que la justice, est-ce que Vinci va avoir gain de cause? On saura ça demain, et voilà, c'était aussi pour ça qu'on voulait vous parler de ce bouquin « Défendre la ZAD ». Et là, notamment, oui, la prochaine étape, en tout cas du côté des personnes qui s'organisent sur la ZAD, c'est l'appel d'offres de la ZAD. C'est un appel d'offres qui vient contrer celui qu'a relancé Vinci et qu'a relancé la préfecture de Loire-Atlantique par rapport aux appels d'offres lancés aux entreprises pour venir commencer des travaux préliminaires sur la zone en vue de lancer des travaux préparatoires, voilà, de préparation de la zone pour y construire l'aéroport. Et les opposants à l'aéroport ont lancé un appel d'offres pour pouvoir continuer les travaux et venir y continuer de construire ce monde un peu fou dont parlait le documentaire qu'on vient de vous passer. Tu veux nous lire un peu?
Le comité de pilotage pour un avenir sans aéroport lance un appel d'offres pour une reprise des travaux, qui n'ont en fait jamais cessé de notre côté, sur la ZAD, les 30 et 31 janvier 2016, juste après la trêve des confiseurs. Cet appel d'offres s'adresse à toutes celles et ceux qui participent à la lutte dans la région et bien au-delà, qu'ils soient organisés en comité ou en groupe d'amis. Il est destiné à renforcer les structures collectives, matérielles, agricoles, défensives et festives existantes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il s'agit de travaux divers, adaptés à tous les goûts et à tous les corps de métier. Les chantiers mentionnés devront être effectués, ou tout au moins sérieusement démarrés, les 30 et 31 janvier 2016. Des chantiers se poursuivront sur la ZAD tout au long de l'année. Chaque comité ou tout individu entreprenant est invité à nous faire part du lot qu'il souhaiterait pourvoir et sera mis en contact pour la mise en œuvre avec les membres référents du comité de pilotage pour un avenir sans aéroport. Chaque comité ou groupe responsable d'un chantier sera invité à jumeler à ce moment-là le lieu-dit, chemin, lieu de vie ou d'activité concerné sur la ZAD avec un lieu de son choix dans sa bourgade ou son quartier pour que les échanges se prolongent bien au-delà du week-end. Puisqu'il n'y aura pas d'aéroport, cet appel d'offres vient remplacer et annuler celui formulé par la préfecture fin octobre et répondre ainsi aux menaces du gouvernement de venir effectuer ses propres travaux aéroportuaires nuisibles et autres opérations policières mortifères.
Voilà, donc ça c'est l'appel du côté de la ZAD et des habitants de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, et l'amicale Dijon Notre-Dame-des-Landes, donc qui depuis quelques semaines a repris de l'activité à Dijon, se propose de rejoindre cet appel et d'aller y effectuer notamment une installation de panneaux d'affichage d'entrée sur la zone de la ZAD. Sur les différentes routes qui parcourent cet espace géographique précis, et donc voilà, de faire des panneaux bienvenue sur la ZAD, vous quittez le territoire français, etc., etc.
Si vous voulez vous y joindre ou joindre tout simplement le comité de Dijon, Notre-Dame-des-Landes, donc l'adresse elle est trouvable un peu partout sur internet, je la connais plus par cœur, on vous la remettra sur le blog, n'hésitez pas à les joindre. parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce comité, ça brasse beaucoup de mondes différents. Il y a des gens d'Alternatiba, des gens des Amis de la Terre, des gens des Lentillères, d'Attaque. Il y a une espèce de front très massif et hétérogène, en fait, de gens qui se sont rencontrés pour défendre cette ZAD.
Sans transition aucune, on passe ce petite rencontre que tu as effectuée toi avec le collectif Mauvaise Troupe, c'est ça ?
Voilà, alors Mauvaise Troupe, c'est les gens qui ont écrit Constellation, un pavé qui est sorti il y a 2 ans, dont le sous-titre était Trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, et dont l'ambition, mais ils vous le raconteront dans l'enregistrement qu'on va vous passer, était de retracer un peu toutes les luttes révolutionnaires. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui de lutter, d'être révolutionnaire, d'entreprendre des choses révolutionnaires aujourd'hui en ce jeune 21e siècle. Et du coup, ça retrace plein de manières différentes de faire ça. C'est des gens qui ont continué de travailler sur ces questions-là, qui font partie en fait de ces luttes, et qui sortent donc cette semaine un tout petit pamphlet qui s'appelle Défendre la ZAD, qui est trouvable partout, puisque le but c'est qu'il y en ait une diffusion très très large, et qui est un appel à venir défendre la ZAD. On vous en lira quelques passages après, pour le moment on va les écouter, ils nous racontent un petit peu leur démarche.
Du coup vous faites tous les deux partie du collectif Mauvaise Troupe, qui ont sorti il y a 2 ans, c'est ça ? Un livre qui s'appelle Constellation. On avait pas mal parlé aussi dans Vacarme en Réunion. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement un peu qu'est-ce que c'était que ce livre ?
Ouais, du coup, on a eu l'idée de commencer à écrire ce livre autour de 2011, je crois. C'est avec un petit groupe de gens avec qui on avait déjà eu des expériences d'écriture en commun. Et c'est des gens avec qui on se disait que... On avait vécu plein de choses intéressantes depuis, en tout cas nous comme groupe là, de gens autour de la trentaine, depuis le début des années 2000, que ce soit des histoires de lutte, de participation dans les mouvements sociaux, ou des histoires plus quotidiennes d'essayer de se rapprocher des savoir-faire, d'investir l'endroit où on habite et y habiter pleinement, le rapport au numérique. Enfin, il y a tout un tas de thèmes comme ça qui sont abordés dans Constellation. Qu'on avait envie à la fois de retransmettre ces récits et à la fois de les mettre en lien, avec le pari que de cette mise en lien, on pouvait se dégager un peu des perspectives révolutionnaires dont l'époque nous semble à la fois appeler ces perspectives et à la fois manquer de choses un peu concrètes formulées clairement en tant que telles.
Je me souviens que dans votre introduction, vous disiez que c'était aussi une sorte de livre d'histoire, quoi. De livre qui raconte des histoires pour aussi garder des traces de choses qui habituellement sont un peu perdues parce qu'elles font partie d'une histoire minoritaire et que ça s'efface.
En effet, l'idée c'était vraiment que les personnes qui avaient traversé les expériences qu'on allait chercher puissent prendre le temps de mettre en récit ce qu'elles avaient vécu. On s'est aperçu que c'était pas si évident que ça, pour des histoires collectives, de revenir sur des choses passées ou encore plus difficiles, des choses en cours, et que pour autant, tous les collectifs à peu près qu'on croisait disaient la nécessité de pouvoir faire ça, ne serait-ce qu'au sein du collectif, parce que ça vient dire, permettre des choses, mais aussi bien sûr pour transmettre. Et du coup, il y a eu un travail... sur les formes que pouvait permettre ça, autant des fois des récits dits fictifs qui en disent beaucoup de choses sur finalement nos réalités, que des récits d'expérience plus classiques ou parfois des entretiens collectifs. Voilà, c'est des différentes formes écrites qui ont permis au groupe de mettre en récit ses vécus.
D'accord. Et là, depuis la sortie de Constellation, vous travaillez sur un autre livre qui va sortir bientôt et qui, lui, s'intéresse à la lutte sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes et à la lutte notave dans le Val-de-Suze. Du coup, par rapport à Constellation, vous faisiez un énorme panel de plein d'expériences diverses. Là, vous vous concentrez uniquement sur ces deux luttes-là.
Alors, ouais, on se consacre sur ces deux luttes-là parce que, d'une part, entre autres, quand même, ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes, pardon, au moment où on était en train de finaliser le livre, c'est-à-dire pendant les expulsions, on y passait beaucoup de temps et c'est quelque chose qui nous a manqué de ne pas pouvoir prendre du temps pour raconter ce qui se passait là de fort. Il y avait Du coup, il y avait l'envie de mettre en récit ce vécu assez exceptionnel. Et pareil, on passait aussi du temps, pour certains d'entre nous, en Valsouza. Et il nous semblait en fait aussi que ces deux luttes, elles venaient dire quelque chose de ce que veut dire aujourd'hui la possibilité d'habiter un territoire, y lutter, et peut-être nous semblait venir dire des choses, de nouvelles manières de lutter au XXIe siècle. C'est pas pour dire que les mouvements sociaux sont enterrés ou quoi que ce soit, mais quand même, voilà, c'est pas non plus la joie de ce côté-là, et pour autant, il y a une espèce de vivacité du côté de ces deux luttes qui nous paraissaient vraiment porteuses d'espoir à bien des égards et qu'on avait envie de mettre en récit. Et du coup, un des points communs avec Constellation, c'est qu'on part aussi du récit des gens. Alors là, c'est pas le livre, il sera pas composé juste des personnes qui auront écrit des textes qui retracent la lutte. C'est nous qui allons composer à partir des récits qu'ont bien voulu nous donner les gens, des entretiens qu'on a fait avec eux, ces ouvrages. Qui va composer cet ouvrage-là.
Et d'ici là, on peut trouver toute une série d'entretiens aussi qui racontent des trajectoires particulières d'une personne qui sont disponibles. Nous, on les remettra sur le blog aussi de la radio parce qu'ils sont assez passionnants. On a croisé beaucoup de gens qui font pas du tout partie des milieux militants, qui ont été assez touchés quoi, par ces récits. Et sinon, cette semaine-là, on trouve « Défendre la ZAD », qui est un tout petit livre, je crois, qui fait une trentaine de pages, et qui est du coup plus... une manière d'intervenir. Je ne sais pas comment vous définissez ça, mais...
Peut-être avant, je vais revenir sur les entretiens, ce que tu disais sur le fait que ça parle à des gens qui ne sont pas forcément militants. Je crois que c'est aussi une des choses qui nous intéressait dans ces deux mouvements-là. C'est que c'est une résistance qui vient d'abord des habitants qui luttent depuis depuis leur vie quotidienne, quoi. C'est leur vie qui est directement attaquée, donc c'est pas depuis des espèces de présupposés politiques qui vont... Alors évidemment, ça rentre en compte, ça permet de percevoir ce qui nous arrive et donc de trouver des manières d'y faire face, le fait d'avoir un background politique, mais ce qui est intéressant, c'est un peu la conjonction de... justement, c'est des grands enjeux politiques autour de l'écologie, autour de qu'est-ce que c'est que le gouvernement, comment on subit les décisions qui sont prises pour nous, etc. Et des réalités très concrètes, très quotidiennes que vont vivre soit les gens de Notre-Dame-des-Landes, soit les gens de la vallée du Val-de-Suse. Et que, du coup, c'est un peu... là qu'on perçoit une vivacité dans ces luttes-là, dans la conjonction de ce qu'est de l'ordre de la vie quotidienne et de ce qu'est de l'ordre des grands enjeux politiques. Et donc je pense que c'est ça aussi qui explique qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dedans sans se passionner a priori pour les luttes autour du territoire ou pour les mouvements politiques, parce que ça part du vécu, et même les gens qui sont venus, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, en disant « là, il y a une lutte d'ampleur, et on va venir participer », donc avec une approche très militante, et bien, par les formes de lutte, donc l'occupation, venir s'installer, vivre sur place, etc., sont fait embarquer aussi dans cette logique de mélanger complètement la vie quotidienne et la lutte. Et voilà, c'est ça qu'on trouve particulièrement intéressant dans ces histoires.
Et du coup, t'en venais à défendre la ZAD sur qu'est-ce qui nous a fait sortir ce petit livre-là. En fait, déjà le gros livre, il est pas encore fini. On espère pouvoir le finir en mars pour qu'il puisse sortir en mai. Et ces derniers mois, c'est quand même un peu révélé comme une urgence politique. Peut-être on se trompe ou peut-être pas, mais au vu des procès-là qui sont dernièrement... présenter, ça vient quand même confirmer un peu qu'il se passe des choses autour de la zone et que, je sais pas quoi, les décideurs politiques n'ont pas envie, a priori, de lâcher comme ça de laisser tranquille ce qui se passe sur cette zone. Et du coup, nous, une des choses qu'on pouvait faire, le collectif qu'on était là à écrire ce gros bouquin qui nous prend du temps, c'était peut-être essayer d'écrire plus rapidement un petit texte dans l'urgence qui soit donc pas... un récit complexe des expériences en cours, etc., mais plus un appel à voir, enfin à montrer plutôt, un appel à montrer pour nous qu'est-ce qui fait consistance, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de défendre cet endroit, pourquoi on y tient. Donc ça tient en 40 pages, c'était un peu un challenge comme ça, mais on s'est dit voilà, peut-être on peut faire ce geste-là. On a eu la chance que les éditeurs de Constellation nous suivent aussi sur une aventure comme celle-là. Et voilà, assez modestement, l'idée c'était, parmi les choses qu'on peut faire, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais parmi les choses qu'on peut faire là, nous, le collectif qui écrivons ce gros bouquin, ça peut être peut-être celui de donner par un petit texte l'envie à des gens qui ont peu suivi depuis les expulsions ce qui s'est passé sur la ZAD, que les gens y puissent voir un peu qu'est-ce qui s'est élaboré, ça vient dire quoi, comme ça la possibilité d'habiter sur une zone qui fait quand même, je sais plus, 600 hectares, c'est quoi 1600 hectares, c'est quoi les questions qui s'y posent, c'est quoi pendant toutes ces années qui s'est un peu élaboré, c'est quoi qu'on trouve, je sais pas, c'est dingue comme question aujourd'hui dans la France du 21e siècle qui est quand même pas...
Dans la possibilité de vivre sans institution et d'autonomie quoi, sur une zone avec tous les questions complexes que ça pose matériellement, d'un point de vue des rapports entre les gens, comment on règle les conflits, malgré les différences, parce que c'est pas que des gens qui se trouvent sur les mêmes bases, loin de là, qui vivent là-bas, on arrive à vivre ensemble, comment on arrive à pas se laisser enfermer dans une petite vie un peu marginale, mais on continue à penser le monde, et puis là, tout ça, c'est un peu ces questions-là là, qu'on trouvait passionnantes.
Il y a ça, et puis il y a le contexte politique français aussi qui vient faire écho quand même à l'importance de tel vécu, c'est-à-dire, on vit dans l'état d'urgence aujourd'hui, etc. Et qu'est-ce que...
Ouais, c'est un des paris, c'est de se dire que le mouvement, on sait qu'il est fort, on sait que rien que par les gens qui sont déjà touchés, qui sont soit sur place et qui passent quasiment leur vie à lutter pour ça quand il y a besoin, soit dans toute la France, des gens qu'on crée des comités qui sont venus sur la zone et tout ça, ça fait des milliers de gens qui sont prêts à se bouger et qui n'ont pas besoin de ce petit livre pour ça. Un des paris de sortir ce bouquin, c'est aussi de se dire que le conflit à Notre-Dame-des-Landes, il est devenu un peu un étendard de tout ce qui est possible en matière de lutte politique émancipatrice en France aujourd'hui, avec... Il ne faut pas se dire que c'est le seul endroit où c'est possible de lutter, il faut lutter partout où on peut, mais dans la possibilité d'arracher une victoire là-bas, dans l'ampleur que ça a pris d'ores et déjà, et dans, effectivement, comme tu disais, le contexte un peu plombé en ce moment, on se dit qu'il y a tout intérêt à ce que tous les gens qui pourraient vaguement se reconnaître là-dedans s'y mettent autant qu'ils peuvent maintenant. Pas forcément parce que le mouvement serait trop faible sans ça pour arriver à l'emporter, mais parce qu'il y a un enjeu à ce que tout le monde soit aspiré par la force qui se dégage de ce mouvement-là et puisse être touché d'une façon ou d'une autre, se reconnaître dedans, y récupérer en contrepartie de l'énergie pour aller lutter ailleurs et tout ça. Quoi. Donc c'est un peu cette vocation-là, quoi, d'étendre le mouvement au-delà de ce qu'il est déjà. Ce qu'il est déjà, c'est 20 000 personnes réunis en 10 jours sur la rocade de Nantes le 9 janvier, donc c'est déjà quelque chose de très fort. Il me semble que ça peut toucher bien.
Oui, parce que aussi, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de la ZAD comme de la lutte contre l'aéroport, et il y a quand même moins de gens qui sont vraiment au courant de tout ce qui s'y construit et de l'expérimentation politique et de l'affirmation d'autonomie politique qu'elle porte. Quoi.
Oui, et même pour ceux qui sont au courant, ça ouvre beaucoup plus de questions que de... C'est souvent que quand on en discute avec des gens qui suivent ça de loin, alors comment ça se passe, et c'est ça qui nous passionne aussi, en fait, quoi. C'est ça qu'on a été très contents d'approfondir en faisant cette série d'entretiens et qu'on a envie de répondre. Concrètement, du coup, le bouquin, là, il est sorti en librairie. Donc, vu qu'il est sorti un peu en urgence, souvent, il faut passer par la commande parce que les librairies n'ont pas forcément en rayon. Mais donc, c'est possible d'en commander un peu partout. On trouve ça important qu'il puisse se diffuser dans le réseau librairie, mais aussi que par le biais des différents comités de soutien, donc c'est possible aussi. Il est plutôt pas trop cher, il est à 3 euros en librairie, donc d'en acheter 10 en librairie, puis de le revendre après, ou de le diffuser autour de soi pour toucher le plus de monde possible. Donc, et puis il est disponible aussi sur le site internet, pour les gens qui voudraient juste jeter un coup d'œil ou le lire comme ça. Le site internet c'est constellation.boom.org. Et voilà quoi, on va essayer de le porter le plus qu'on peut, de le diffuser, d'aller en parler, mais on espère que ça sera repris aussi et que ce sera un outil pour faire connaître la lutte.
À l'automne 2015, le gouvernement annonçait, une fois de plus, que démarreraient au plus vite les travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il martèle depuis sa volonté d'expulser la ZAD de l'ensemble de ceux qui l'habitent et la cultivent. Avec les efforts conjugués des tractopelles de Vinci et des grenades de la gendarmerie, il entend tenter, dès que possible, de venir à bout de tout ce qui pousse et vit dans ce bocage. Face à cette menace renouvelée, ce texte est un appel à défendre la ZAD partout, et à travers elle, tout l'espoir contagieux qu'elle contient dans une époque aride. La ZAD comme conviction qu'il est possible d'arrêter les projets destructeurs de ceux qu'ils prétendent nous gouverner. La ZAD comme espace où s'inventent ici et maintenant d'autres manières d'habiter le monde, pleines et partageuses. Cet espoir s'ancre dans une histoire commune, riche des élans de dizaines de milliers d'insoumis et des liens sondés par le temps. Les lignes qui suivent évoquent quelques fragments décisifs de cette aventure, comme autant de repères éclatants pour l'avenir. Nous sommes quelques habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou proches compagnons de route, qui vivons au diapason de cette rébellion. Au sein de la mauvaise troupe, nous travaillons depuis quelques mois à en récolter et à en colporter les récits à travers la publication d'une série d'entretiens et d'un ouvrage à paraître ce printemps. Mus par un sentiment d'urgence, nous avons décidé de prendre la plume pour raconter et répandre partout ce pourquoi il faut défendre la ZAD. Dans un monde où règne le « je », nous avons l'ambition de parler ici au « nous ». Celui employé dans ce livre nous dépasse et se risque même à incarner au fil du récit une des paroles collectives d'un mouvement fort de son hétérogénéité. Il n'en est pas la voix unique, mais une tentative d'énonciation de ce qui se construit de commun et d'indéracinable dans l'entremêlement vivant de nos positions et de nos expériences singulières. Il faut défendre la ZAD. La défendre comme expérience et force d'une résistance collective dans un coin de bocage qui a rassemblé et inspiré des dizaines de milliers de personnes depuis des années. S'il s'entêtait à revenir, nous appelons à faire front par une défense bec et ongle de la zone, par un blocage de la région et par l'occupation des lieux de pouvoir, ainsi que par des banquets sur les places des villes et des villages. Nous appelons à multiplier les actions, à même d'arracher sans plus attendre l'abandon du projet d'aéroport et d'assurer la poursuite de l'expérimentation politique en effervescence dans ce bocage. Mais il faut aussi défendre la ZAD comme possibilité historique, d'ores et déjà devenue contagieuse, qui peut s'actualiser en mille autres endroits, et de mille manières encore. Nous appelons à ce que l'esprit de la ZAD continue à se diffuser, empruntant chaque fois des voies singulières, mais avec le désir d'ouvrir partout des brèches. Des brèches face à la frénésie sécuritaire, face au désastre écologique, face à la fermeture des frontières, à la surveillance généralisée, à la marchandisation de tout ce qui existe. La ZAD et tout ce qu'elle représente, à l'image des combats d'hier ou d'ailleurs, constituent ici et maintenant une précieuse lueur d'espoir dans cette époque désenchantée. Il faut défendre la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, partout.
Voilà, donc c'était un extrait de ce petit bouquin qui vient de sortir, Défendre la ZAD, par le collectif Mauvaise Troupe, et c'est aux éditions L'Éclat. C'est possible donc, évidemment, de le commander. Il y a aussi un site qui s'appelle Libère-éclat.net pour le commander, ou alors, vous pouvez regarder aussi sur le site donc du collectif Mauvaise Troupe, c'est https://constellation.boom.org. Voilà, donc... Ce petit bouquin sort maintenant, et puis c'est après tout, quoi.
Ouais, il a été diffusé très largement dans de nombreuses librairies, pas seulement des librairies militantes. Par contre, je crois que dans l'urgence, il en a pas été tiré assez. Du coup, c'est un petit peu difficile de se le procurer. Il faut attendre un petit peu, il faut les commander dans les librairies. Et voilà, je crois que ça va être réapprovisionné très vite. En tout cas, à Granger, c'est ce qu'il disait là, c'est que c'était possible de le commander. Et puis sinon, bah oui, c'est possible de le lire en ligne. Et puis, vous avez entendu dans l'enregistrement, la mauvaise troupe invite aussi tous les comités de soutien de Notre-Dame-des-Landes à en commander pour les distribuer, parce que c'est vrai que ça fait un bon outil à distribuer un peu largement. Ça se lit super vite, ça raconte un petit peu tout ce que c'est l'expérience de la défense de la zone, ça fait une quarantaine de pages. C'est un peu un récit précis de comment la zone a été défendue, avec des rappels un petit peu de tel jour, qu'est-ce qui s'est passé, comment la défense a été incarnée. Et puis après, ça déroule un peu plus qu'est-ce qui vit sur la ZAD, qu'est-ce qu'il y a à défendre. Comme l'expliquait le texte que je viens de lire, qu'est-ce qu'il y a à défendre concrètement, quelle maison, quel champ, quels travaux, quelle personne. Mais aussi, plus largement, qu'est-ce qu'il y a à défendre comme possibilité existentielle et politique, on dirait. Dans cette époque qui en ouvre pas énormément. Voilà, c'est assez flagrant souvent de voir comment, quand tu rencontres quelqu'un qui habite à la ZAD et que tu as envie de faire avancer les luttes politiques aujourd'hui, et ben, dans les villes à droite à gauche, les horizons semblent des fois un peu bouchés et que quand tu croises des ZADistes, eux, ils avancent, quoi. Il y a quelque chose qui s'expérimente, qui avance et qui donne plutôt de l'espoir, quoi, sur ce qui est possible de construire aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Eh ben ouais, en parlant d'espoir, je voulais que tu... Non, c'est toi qui nous rajoutes une annonce de manifestation, non, c'est ça, en février ?
L'agenda un peu à venir pour Notre-Dame-des-Landes, il est compliqué parce que tout va dépendre des résultats du tribunal qu'on saura que demain. Du coup, si le résultat est négatif demain, certainement il y aura des mobilisations dans les semaines à venir pour empêcher une venue des forces de l'ordre sur la zone, mais aussi pour que, de fait, les amendes qui menacent les habitants ne puissent pas s'exercer. Parce que c'est quand même une pression financière de malade qui leur plane au-dessus de la tête, avec on menace de leur prendre leur cheptel, leur maison, etc. Du coup, il y aura sûrement des mobilisations. Il faut se tenir au courant un peu sur le site de la ZAD qui s'appelle zad.nadir.org. Et en tout cas, dès maintenant, a été calé par l'ensemble du mouvement contre l'aéroport la date du 27 février pour une manifestation très très massive, dont les formes sont pas encore déterminées, parce que je pense que ça dépend du processus de discussion entre eux. Le mouvement contre l'aéroport, c'est un collectif très très hétérogène, du coup les gens n'ont pas tous les mêmes pratiques politiques, ont des désaccords aussi sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être dans la rue, avoir un rapport de force, etc. Du coup, à chaque fois, ils arrivent à élaborer ensemble quelque chose, mais c'est souvent un processus de construction compliqué. Du coup, il y a tout ce processus-là qui est lancé. En tout cas, eux, ils souhaitent que dès maintenant, la date tourne, de savoir que le 27 février, ce sera une date nationale où ils appellent tout le monde à rejoindre Nantes ou la ZAD pour une grande manifestation, quoi, qui devrait donc répondre à toutes ces menaces. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment plus du tout de gagner du temps ou de repousser à plus tard pour pouvoir rediscuter juridiquement, redébattre, etc. Que là, leur objectif, c'est vraiment d'arracher l'abandon du projet le plus vite possible, en constatant que le temps ne sert rien à l'affaire et que c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut faire céder le gouvernement, quoi.
Ouais, tout à fait. Avec cette lecture un peu stratégique quand même de la temporalité de cette lutte, c'est que il y a quand même une fenêtre là pendant 6 mois, pendant lesquels le gouvernement peut tenter d'expulser, de mettre en branle les expulsions et les travaux, et qu'après effectivement, ça sera bien plus compliqué pour eux, notamment parce que présidentiel, parce que etc. etc.
Ouais, c'est relatif à des enjeux politiques, des présidentielles, etc. Mais aussi à des enjeux écologiques qui fait que t'as pas le droit de couper des arbres après le mois d'avril, je crois. Du coup, voilà. Ils ont une fenêtre qui n'est pas énorme, en fait, pour intervenir sur la zone.
Et puis il y a aussi la fin, on le rappelle, on l'a dit déjà tout ça, mais la fin de la déclaration d'utilité publique qui prend acte en 2017, ce qui veut dire que pour eux, ils seront obligés de relancer une procédure de déclaration d'utilité publique avec tout ce que ça a comme contrainte et comme complication, et surtout, a priori, ça passera plus vraiment, parce que tous les acteurs locaux, toutes les personnes qui sont consultées, là, qui l'ont été il y a très longtemps, enfin, il y a maintenant bien plus de 10 ans, bah, sûrement ne donneront pas le même avis sur la pertinence, l'utilité, l'intérêt de cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, on finit cette émission sur défendre la ZAD du collectif Mauvaise Troupe. On se retrouve sûrement la semaine prochaine. Vous pouvez télécharger toutes nos émissions sur tvnr.noblogs.org. Et puis, on finit avec cette superbe musique que tu nous as trouvée, Camille.
Voilà, à la semaine prochaine, j'imagine que vous reconnaîtrez la musique. Que ceux qui ne la connaissent pas n'auront pas besoin de la connaître. À la semaine prochaine.
Une nouvelle maison est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD.